Jésus. Amen. Voilà, mon épouse vous a parlé de retraite. Vous avez bien compris qu'il s'agit de retraite professionnelle et non pas dans le ministère. Chez nous, il n'y a pas de retraite. Chez nous, c'est le ministère. Il n'y a qu'une chose qui peut arrêter notre ministère, c'est notre mort. Ou alors un pépin, un problème, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes très heureux de pouvoir travailler avec Dieu, pour Dieu. C'est un grand honneur. Nous le faisons de tout notre cœur et nous espérons qu'au contraire, ce moment de retraite professionnelle nous permettra de faire encore plus et encore davantage pour Dieu. On va tout de suite passer à la lecture de la parole du Seigneur. Je n'ai pas voulu sortir du contexte de Pâques, hein, puisque nous sommes dans le week-end de Pâques. Et on va lire ensemble dans l'évangile de Jean, chapitre 20. On va essayer de lire du verset 1 au 18, ce sera une lecture un peu plus longue, mais je crois que vous avez l'habitude des lectures longues, hein. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit : « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre, et il arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva, entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit deux anges, vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent : « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit : « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit : « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, je le prendrai. » Et Jésus lui dit : « Marie. » Elle se retourna et elle lui dit en hébreu : « Rabouni, c'est-à-dire maître. Maître. » Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Seigneur, bénis encore ces quelques mots qui ont été dits. Je compte sur l'assistance de ton Esprit Saint, sur ta grâce. Je compte sur toi, Seigneur, je ne désire pas parler moi-même, je voudrais que tu puisses prendre toute la place, que tu puisses parler à ma place, Seigneur. Bénis toutes ces personnes qui se sont dérangées. Cet après-midi, tu connais les cœurs, tu connais les vies, tu connais les choses secrètes, les choses cachées. Seigneur, étends ta main sur chacun d'entre nous, qu'il y ait un mot pour chacun d'entre nous, pour ta gloire et ta seule gloire, Seigneur. Amen, amen. Voilà un récit de la résurrection, c'est vrai un peu long, mais on pouvait difficilement ne pas parler de la résurrection en ce jour, puisque nous célébrons dans ce jour de Pâques la résurrection du Maître. Et il y a là une relation particulière, quelque chose qui se passe. Je voudrais vous parler, alors je ne pourrais pas lire les trois textes, sinon je serais beaucoup trop long et vous allez me jeter dehors. Je voudrais vous résumer les deux autres textes. Il y a trois apparitions du Maître dont je voudrais vous parler, où Jésus a présent trois visages spirituels. Trois visages spirituels dont nous allons parler cet après-midi et qui sont un peu les visages que Christ voudrait que tu découvres. Peut-être toi qui es venu pour la première fois ou que tu viens depuis quelque temps, mais tu ne connais pas encore le Maître. Il voudrait peut-être te faire comprendre certaines choses au travers de ces trois visages. Il y a là un premier visage, il est dit que Marie de Magdala crut que c'était le jardinier. C'est quand même étonnant, c'est quand même bizarre. Comment Marie de Magdala, qui avait suivi Jésus pendant tant de mois, tant d'années, a pu croire que c'était le jardinier. Peut-être que ses yeux étaient embués par les larmes, certainement. Peut-être que, voilà, je ne sais pas, Jésus semblerait-il, dans son corps de ressuscité, avait des apparences légèrement différentes du Jésus terrestre, du Jésus qui a vécu avec eux pendant 3 ans et demi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que non seulement elle croit que c'est le jardinier, mais en plus, elle n'arrive pas à croire. Vous avez lu comme moi, 2 anges sont assis à la place où était le corps de Jésus. Pierre et Jean sont arrivés. Pierre et Jean ont vu dans le tombeau. Ce qu'ils ont vu a permis qu'ils puissent croire. Ils ont vu et ils ont cru. Et Marie de Magdala n'arrivait pas à croire. Pour elle, on avait volé le corps du Seigneur. Pour elle, on l'avait pris. Et lorsqu'elle voit soudain cet homme, je ne sais pas s'il était derrière elle, à côté, devant, elle n'a qu'un mot. Mais je voudrais savoir où ils ont mis mon Seigneur. Je voudrais savoir où ils l'ont mis. Et c'est lorsque Jésus va prononcer son prénom, son nom, Marie, Marie. C'est, je ne sais pas quel ton de voix il a pris, je ne sais pas quelle intonation de voix il avait. Mais c'est lorsqu'il a prononcé son nom que soudain ses yeux s'ouvrent, que soudain elle comprend, c'est lui, c'est le maître, et il est vivant. Il n'est pas mort, il n'est pas resté mort, il a vaincu la mort. La mort n'a pas pu le retenir, il est réellement vivant. Pourtant, il leur avait dit, il leur avait prêché cela, il leur avait annoncé, il faut que le Fils de l'homme soit enseveli 3 jours et 3 nuits, comme Jonas. Mais le 3e jour, il ressuscitera d'entre les morts. Jésus les avait enseignés, Jésus leur avait expliqué tout cela. Et malgré cela, ils n'arrivaient pas à croire. Combien de fois nous ressemblons, combien de fois nous ressemblons à Marie de Magdala, aux disciples. On n'arrive pas à croire, on ne comprend pas les paroles du Seigneur, on ne comprend pas les paroles de l'Évangile. Et il faut qu'il se passe quelque chose, il faut une rencontre personnelle avec le Maître. Et c'est ce que Jésus voudrait te faire vivre cet après-midi, une rencontre personnelle avec lui, entre toi et lui. Marie, Maître, Rabouni, quelle joie, quel bonheur, il est vivant. C'est le jour où tu découvriras que Christ est réellement vivant. Ce sera pour toi la chose la plus extraordinaire que tu pourras vivre ici-bas sur terre. C'est quelque chose qui va bouleverser ta vie, changer ta vie. Tu ne seras plus jamais le même. Lorsque nous avons compris, nous, ce n'est pas Nicky Cruz qui nous a sauvés. Nicky Cruz était un intermédiaire, un instrument dans les mains de Dieu pour que nos yeux s'ouvrent. Son témoignage, sa vie nous a ouvert les yeux, mais nous ne nous sommes pas donnés à Nicky Cruz, ni à son mouvement, ni à une église. Nous nous sommes donnés à Jésus-Christ. Nous l'avons accepté comme notre sauveur, nous l'avons découvert. Nous avons lu sa parole, parce que ce que l'on connaît du Christ, c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas ailleurs qu'il faut chercher ce que nous connaissons de Christ, ce que Christ a enseigné, ce que Christ a dit, ce que Christ a fait. C'est dans ce livre merveilleux, extraordinaire, que je vous encourage à lire. Peut-être certains ne l'ont jamais ouvert de leur vie. Ben, je vous encourage, lorsque vous rentrerez chez vous ce soir, à avoir une Bible, à en acheter une s'il le faut, et à la lire. Et vous verrez combien que ce livre va bouleverser vos cœurs et vos vies, si vous êtes sincères avec le Seigneur. Visage du jardinier. Je trouve que ce visage lui va bien au Seigneur. Moi, j'ai fait un peu de jardinage. En plus de mon ministère, en plus de ma vie de conducteur de travaux, j'avais un petit jardin chez moi. J'arrivais un petit peu, quand les beaux jours arrivaient, à faire... Je n'ai jamais eu beaucoup de fruits, hein. Jamais eu beaucoup de résultats. J'étais un très piètre jardinier. Mais quoi qu'il en soit, ça me plaisait. Mais il n'y a rien, il n'y a pas de personne plus attentionnée qu'un jardinier. Il n'y a pas de personne plus attentif aux détails qu'un jardinier, plus patient qu'un jardinier. Et c'est ce que je voudrais te faire comprendre, ce visage-là du Seigneur. Il est ce jardinier qui voudrait s'occuper de ton jardin à toi. Et ton jardin à toi, c'est ton cœur. Écoutez ce qu'il nous est dit dans Ésaïe, chapitre 58, verset 11. Ésaïe, chapitre 58, verset 11. Il nous est dit... L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Peut-être que ton cœur est aride. Peut-être que ton cœur est sec. Peut-être que ta vie est sèche. Peut-être que tu as soif de quelque chose de particulier. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Tu seras comme un jardin arrosé. Jésus voudrait être le jardinier de ton cœur. Jésus voudrait pouvoir se promener dans le jardin de ton cœur. Jésus voudrait pouvoir prendre soin du moindre petit détail de ta vie. Il ne le fera jamais si tu ne l'y autorises pas. Il ne fera rien sans ton autorisation, sans ta permission. Et ce message cet après-midi, cette réunion à laquelle tu assistes, n'a pour unique et seul but que de te faire dire à Jésus, « Seigneur, oui, je le veux. Rentre dans le jardin de mon cœur. Fais ton œuvre. Fais ton travail. » Il y a un autre verset qui nous parle du jardinier, un autre passage de la Bible. Il y en a plusieurs, bien sûr. C'est dans le Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Je le trouve très beau et je voudrais le lire avec vous. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. Il est question de la tsunamite, la bien-aimée, qui est une image de l'Église, une image de l'Église de Jésus-Christ. « Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. » Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents, les troènes et le nard et le safran, le roseau aromatique et la cinnamome, avec toutes les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe, l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, il est question de vent, soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exaltent. Jésus voudrait souffler sur toi de son esprit. Jésus voudrait que de toi puissent se dégager ces parfums secrets, ces parfums cachés. Jésus nous aime, chacun d'entre nous, tel que nous sommes. Il est dit dans la parole de Dieu que Jésus nous a aimés lorsque nous étions encore des pécheurs. Il ne m'aime pas parce que je suis un pasteur. Il ne m'aime pas parce que je suis un chrétien, un baptisé. Il m'a aimé lorsque j'étais encore un pécheur. C'est ce que la Bible affirme. Il est mort pour moi lorsque j'étais un pécheur. Mais il voyait déjà à l'avance. Il voyait déjà à l'avance ce qu'il allait pouvoir faire dans ce cœur, dans ce jardin particulier. Et pour toi, il en est de même. Jésus veut souffler dans ton cœur, souffler dans ta vie, un renouveau de grâce, une nouvelle vie, quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, dont tu ne peux même pas imaginer à quel point ça peut être exaltant, à quel point ça peut être odorifant, à quel point tu pourras un jour dégager des odeurs et des parfums et des couleurs que tu ne soupçonnes même pas. Nos vies souvent sont fades, nos vies souvent n'ont pas de valeur à nos yeux. Elle semble triste, inutile. Et lorsque nous commençons à avancer en âge, lorsque nous nous approchons tout doucement de ce terme fatidique qu'on appelle la mort, souvent on se pose plein de questions. Mais à quoi ont servi toutes ces années que j'ai passées ici-bas sur Terre? Quelle était la raison de mon existence? Lorsque nous savons que nous faisons partie d'une masse d'hommes et de femmes d'environ 7 milliards et demi, je crois aujourd'hui, de personnes. Que sommes-nous? Qui sommes-nous? Aux yeux du monde, nous ne sommes rien. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes un jardin merveilleux où il voit déjà d'avance ce qu'il va pouvoir faire. Vous savez, quand vous arrivez sur un terrain un petit peu sauvage, le jardinier il voit tout de suite. Il voit déjà d'avance, il ne voit pas les ronces, il ne voit pas les épines, il ne voit pas les cailloux, les rochers, les détritus, les déchets. Quand on est rentré dans cette fameuse maison dont mon épouse vous a parlé, on avait un jardin en haut, c'était une ruine totale, c'était des ronces de tous les côtés, c'était une catastrophe générale. Mais on voyait déjà ce qu'on allait pouvoir en faire. On voyait déjà les petits détails. L'emplacement de la future roca et l'emplacement du futur endroit fleuri ou des légumes. Et puis on s'est mis à l'ouvrage. Ah ben Jésus voit déjà ce qu'il peut faire dans ton cœur. Il sait déjà d'avance ce qu'il peut faire. Et tu serais surpris si tu le laissais agir. Tu serais surpris. Un jardinier, il y a deux autres images du maître, deux autres visages dont il voudrait vous parler. Je vais vous les commenter parce que ça serait trop long si je lisais le texte. Il y a un autre passage où il est dit que deux disciples partaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils quittaient Jérusalem. Et alors qu'ils étaient en route, voilà que soudain, un étranger se trouve à côté d'eux. Et ils commencent à s'entretenir ensemble, ils commencent à parler. Et puis c'est vrai qu'ils étaient en train de parler de tout ce qui était arrivé récemment, de ce sauveur, ce maître, ce messie qu'ils avaient, en qui ils avaient mis toute leur espérance, toute leur confiance. Ils avaient certainement consacré une partie de leur temps, de leur vie. Et voilà qu'il a été crucifié et qu'il est mort. Et puis tout en marchant, tout en s'entretenant, ce voyageur, il a là le visage du voyageur. Tu sais que le Seigneur voudrait voyager avec toi ? Est-ce que tu sais que le Seigneur voudrait t'accompagner dans ces jours qui te restent à vivre ici-bas sur terre, quel qu'en soit le nombre ? Il te propose cet après-midi de t'accompagner dans ta vie, de devenir quelque part ton guide, de devenir quelque part ton ami, ton conseiller, quelqu'un qui va supporter tes souffrances, qui va t'aider dans ta marche, quelqu'un qui va t'encourager, quelqu'un qui est prêt à intervenir lorsque ça ira mal. Parce que ce n'est pas parce qu'on devient chrétien que tout va bien. Jamais, moi, je ne prêcherai un tel évangile. C'est un peu des évangiles à la mode. Hein. Devenez chrétien et tout va aller merveilleusement bien. Vous allez devenir riche. Non, certainement pas. Beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de chrétiens meurent à cause de leur foi. Beaucoup de chrétiens ont beaucoup de problèmes, de maladies et autres. Mais ils ont Christ avec eux. Ils ont ce merveilleux voyageur avec eux qui a promis à son Église qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il sera avec toi si tu le laisses ce soir, cet après-midi, devenir le sauveur de ta vie, le voyageur qui voyagera avec toi. Et alors qu'ils étaient en train de discuter, Jésus, un peu avec beaucoup d'humour, leur pose des questions. Mais qu'est-il donc arrivé? Quoi? Et puis il laisse un petit peu les disciples expliquer, parler. Vous savez, Dieu est comme cela. Dieu aime nous entendre. Dieu aimerait écouter ta voix. Dieu aimerait écouter ton cœur. Dieu veut nous parler, c'est sûr, mais il veut aussi nous écouter. Il veut que nous puissions exprimer tout ce qu'il y a là, dans notre cœur, dans notre vie, toutes les tristesses, toutes les déceptions, tous les soucis, les tracas, les inquiétudes. Dieu te propose de les écouter cet après-midi. Il est là attentif, et Jésus était là attentif. Et lorsqu'ils ont expliqué un peu tout ce qu'ils avaient écouté, ils ont même parlé de, soi-disant, des femmes auraient rencontré le Christ ressuscité. Mais excusez-moi pour vous, mesdames, pour eux, c'était que des femmes. Voilà. Ça n'avait pas une valeur extraordinaire à ce moment-là pour eux. Et Jésus va commencer par la loi, par Moïse, par toutes les Écritures, à leur expliquer, sans qu'ils aient compris encore que c'était Jésus. Pour eux, c'était toujours un étranger. Mais il va leur expliquer tout ce qui, dans les Écritures, le concernait. Ah, que j'aurais voulu être là. Vous savez, en tant que pasteur, on a suivi des études, bien sûr. On a fait quelques études bibliques. On a eu des enseignants qui avaient beaucoup de charisme, beaucoup d'aptitude. Mais alors, cet enseignement-là, Seigneur, que ça devait être beau. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Tout ce qui le concernait dans les Écritures. Et ils n'ont toujours pas compris comment un étranger qui soudain voyage avec eux en sache autant sur le Messie. Et puis arrivé près d'Emmaüs, la nuit était en train de tomber, dit la Bible. Voilà qu'il lui propose, parce qu'ils avaient hâte, ils avaient envie de l'écouter encore. Vous savez, quand on a commencé à goûter à Dieu, on en a toujours envie de plus, on n'en a jamais assez. Ma femme nous a dit 40 ans. Pratiquement, presque 40 ans. On n'en a pas assez. On a toujours envie d'en entendre encore davantage, de goûter quand on a goûté que Dieu est bon. On ne peut plus s'en passer. Et ces hommes ont voulu, mais non, reste avec nous, ne nous quitte pas. Et alors il s'assoit autour d'une table, je ne sais pas si c'était dans une auberge, je ne sais pas si c'était dans la maison de l'un ou de l'autre, dans une famille, j'en sais rien, le texte ne le dit pas. Mais alors qu'ils étaient là, prêts à souper ensemble, et que Jésus va prendre le pain et le rompre, enfin leurs yeux s'ouvrent. Enfin ils comprennent que c'est lui, c'est le maître. Et au même instant, Jésus disparaît devant eux. C'est spécial. Les résurrections du Seigneur sont particulières. Jésus avait d'autres choses à faire. Comme pour Marie, comprenez bien, Jésus avait plein de choses à faire. À Marie, il avait dit, ne me retiens pas. Je ne suis pas encore allé vers mon Père. Ça ne l'a pas empêché de consoler Marie. Ça ne l'a pas empêché de soigner Marie. Ça ne l'a pas empêché de l'exhorter, de lui parler, de l'encourager. Jésus a beaucoup de choses à faire, mais ça ne l'empêchera pas de s'occuper de toi, personnellement, cet après-midi. De ton problème personnel à toi. Et là, Jésus disparaît devant leurs yeux. Il avait d'autres choses à faire. Et eux, heureux, joyeux, réalisant qu'il est vraiment vivant, ils font quoi? Ils vont se coucher? Certainement pas. La Bible nous dit qu'ils retournent à Jérusalem. À l'instant même, la nuit était tombée. Il y avait à peu près 12 kilomètres entre Emmaüs et Jérusalem. 12 kilomètres à pied. Ils retournent à Jérusalem. Parce que maintenant, il n'y avait plus qu'une chose qui compte. C'était de retrouver les disciples, de retrouver les apôtres, de retrouver ceux qui avaient la même foi qu'eux, et de se réjouir ensemble. C'est ce qui nous arrive quand on apprend qui est le Christ vraiment, quand on apprend qui est Jésus vraiment. On n'a plus qu'une seule envie, être avec ceux qui ont le même désir dans leur cœur, la même joie dans leur cœur, parce que l'Évangile, c'est un sujet de joie. Un sujet de joie. Combien de personnes, malheureusement, en ont fait un sujet de tristesse, un sujet de rigolade, un sujet de moquerie. L'Évangile, c'est un sujet de joie. Nous vous annonçons le sujet d'une très grande joie, disaient les anges aux bergers. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Amen. Le sujet d'une très grande joie. Mon cœur est dans la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison du Seigneur », disait le psalmiste. Alléluia! Merci Seigneur, le sujet d'une très grande joie. Dans Actes chapitre 14, verset 16, il nous est dit, « Il n'a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. Comment ? En remplissant vos cœurs de joie. » Et Jésus a dit, « Je veux qu'ils aient ma joie, une joie parfaite. » Ceux qui étaient là ce matin, je vous ai parlé de la vie que Jésus voulait nous donner. Il ne veut pas nous donner la vie, il veut nous donner sa vie. Il ne veut pas nous donner la joie, il veut nous donner sa joie. Il ne veut pas nous donner la paix, il veut nous donner sa paix. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Merci Seigneur. Merci à notre Dieu. Voilà donc le deuxième visage du Maître, un voyageur qui veut t'accompagner, qui veut te soutenir, qui veut te conseiller, t'encourager, te montrer la route, te montrer le chemin. Et puis le dernier visage, j'en ai parlé ce matin. Le dernier visage dont je voudrais vous parler, c'est le visage de celui qui avait préparé cette fameuse grillade au bord du lac de Galilée. J'ai dit le visage, c'est vrai que ça peut paraître bizarre. Là, il se transforme en un restaurateur. Il se transforme en quelqu'un qui avait préparé un repas. Une grillade pour ses disciples qui avaient pêché toute la nuit, qui n'avaient rien pris. Ils ont eu du mal à le reconnaître encore une fois. Il les avait appelés, interpellés de loin. L'apôtre qui était tellement proche du maître va le reconnaître. C'est le Seigneur! C'est le Seigneur! Parce qu'il venait de faire à nouveau une grande pêche miraculeuse. À nouveau, Jésus leur avait dit, jetez vos filets du côté droit. À nouveau, le filet s'était rempli comme 3 ans et demi auparavant. C'est le Seigneur! L'apôtre Pierre, il a dit, m'excuse, voilà, c'est peut-être un peu bizarre, il était nu. Il n'a qu'une envie, lui. C'est de rejoindre son Seigneur. Les poissons, là, ça ne l'intéresse pas. Le filet, là, prêt à craquer, ça ne l'intéresse pas. Il n'a qu'une envie, rejoindre le maître. Rejoindre le maître. Et c'est assez étrange. Alors qu'il était en tenue de nage, de natation, on pourrait dire. Voilà qu'il va mettre son manteau, mettre sa tunique et plonger dans l'eau. C'est le texte qui le dit. On ne peut pas venir à Jésus n'importe comment. On ne peut pas se présenter devant le Seigneur n'importe comment. Comprenez cela. On a un respect devant le Fils du Dieu vivant, devant celui qui a porté le châtiment du monde entier, celui qui a porté la souffrance du monde entier, les péchés du monde entier. La Bible dit qu'il a porté sur la croix de Golgotha notre châtiment, le châtiment qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Il a tout accompli à Golgotha. Il n'a pas eu peur. et il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. Donc on ne peut pas venir devant ce Sauveur et merveilleux et glorieux n'importe comment. Parce que des fois, peut-être, des personnes peut-être se moquent un peu de ceux qui ont, comme ils disent, de la religion. Hein, c'est un terme qu'on utilise souvent. Ils ont de la religion. Non, on n'a pas de la religion, on a Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. On sait qui il est, on sait à quel point il peut être proche de nous, comme un voyageur, comme un jardinier, mais on sait aussi qui il est réellement. On sait que toutes choses lui ont été soumises par son Père, toutes choses lui ont été soumises. On sait qu'il a vaincu la mort, et on sait qu'à un moment donné, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. On sait qu'à un moment donné, les morts en Christ ressusciteront. Les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, il viendra pour définitivement libérer les hommes, les femmes, tous ceux qui auront voulu croire en lui, de la mort. Et nous serons pour l'éternité avec lui. Amen. Le visage d'un restaurateur, le visage de quelqu'un qui est prêt à nous nourrir, qui est capable de nous nourrir. Il s'est présenté comme le pain vivant descendu du ciel. Pourrions-nous avoir faim à côté du pain vivant? Ce n'est pas possible. Il s'est présenté comme la source d'eau vive. Pourrions-nous avoir soif à côté de la source d'eau vive? Ce n'est pas possible. Jésus peut te rassasier. Jésus peut te donner, comme à la femme samaritaine. Il peut te donner à boire de cette eau vive avec laquelle tu n'auras plus jamais soif, avec laquelle ta vie sera rassasiée. Ton cœur deviendra un jardin. Et je termine. Oui, il est vraiment ce bon samaritain. Le bon samaritain, vous avez entendu ce récit, même peut-être ceux qui viennent que pour quelques fois. Ce bon samaritain qui, en descendant sur cette route pour aller à Jéricho, va tomber sur cet homme qui avait été frappé de coups, qui avait été laissé pour mort. Et la première chose qu'il va faire, comme le divin jardinier, il va soigner le blessé. Il va soigner le blessé. Lui, le voyageur, lui qui était en train de parcourir cette route, il s'arrête et il va soigner le blessé. Mais il ne se contente pas de le soigner. Il va l'emmener où? Il va l'emmener à l'hôtellerie. Il va le déposer à l'hôtellerie et il va payer pour que le gérant de cet hôtel prenne soin de lui, le nourrisse, l'héberge. Je ne comprends pas que un tel restaurant n'ait pas plus de succès. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre qu'une telle attention, une telle consécration pour les hommes et les femmes que nous sommes, qui sommes-nous? Aux yeux de Dieu, qui sommes-nous? Et pourtant, il est prêt à s'arrêter devant ta propre vie. Il est prêt à s'occuper de ton jardin à toi, de ton cœur à toi. Il est prêt à faire dégager de ton cœur des valeurs, des couleurs, des odeurs que tu ne soupçonnes même pas. Il veut te conduire à l'hôtellerie, il veut te rassasier, il veut te nourrir, il veut te donner ce qu'il y a de meilleur. Et il ne s'arrêtera jamais. Rien ne pourra l'arrêter. S'il manque quelque chose, dira-t-il à l'hôtelier. Vous avez bien compris que cet hôtel, c'est le symbole de l'Église. C'est nous qui sommes appelés à accueillir les blessés de la route. C'est nous qui sommes appelés à soigner les blessés de la vie. Jésus nous les amène. Jésus nous les amène dans nos assemblées. Jésus nous les met devant nos routes. Et il nous propose, il nous dit, s'il manque quelque chose, je vous le rendrai à mon retour. Amen. S'il manque quelque chose, je vous le rendrai à mon retour. N'ayez pas peur de la dépense. N'ayez pas peur du temps que vous allez passer. N'ayez pas peur de l'argent même que ça vous coûterait. Tout ce que Jésus nous met sur notre route, nous sommes appelés, comme lui, à s'occuper d'eux et à les soigner. Amen. Jésus a payé le prix le plus fort. Le prix le plus fort. Il est mort à notre place. Il a payé de sa vie. Il a souffert sur cette croix de Golgotha. 6 heures de crucifixion. 6 heures pendues entre ciel et terre sous le soleil du Moyen-Orient. 6 heures après avoir été flagellé, après avoir été roué de coups, après avoir pris des baffes, après qu'on lui ait craché au visage, qu'on lui ait arraché la barbe, qu'on ait mis cette couronne d'épines sur sa tête, 6 heures de souffrance, d'agonie. Et qu'a-t-il dit ? Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être que jusqu'à ce jour, tu n'as pas compris ce que tu faisais. Tu n'as pas compris que par ton indifférence, peut-être, tu faisais mal à Dieu, tu faisais mal à Jésus, tu le faisais souffrir, tu l'attristais. Peut-être n'as-tu pas compris que le fait de vouloir mener ta vie toi-même, de gérer ta vie toi-même, sans l'inviter à être ce voyageur qui t'accompagne, sans l'inviter à prendre soin de ton cœur, à faire les restaurations qui sont nécessaires. Parce que dans le restaurateur, il y a bien sûr celui qui donne à manger, qui nourrit, mais il y a aussi celui qui est capable de réparer, de restaurer nos âmes. Si tu n'as pas compris jusqu'à ce jour qui était vraiment ce maître magnifique, ce sauveur glorieux, alors il est encore là, il te dit encore, Père, Père, pardonne-lui, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, parce qu'elle ne sait pas ce qu'il fait. C'est l'amour manifesté en Jésus-Christ. On ne peut pas trouver un plus grand amour que celui de Golgotha. Je voulais vous en parler. Vous ne pouvez pas évangéliser un jour de Pâques sans en parler. Christ est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. Et il est vraiment vivant. Amen. Il est vraiment vivant. Il est dans ce lieu cet après-midi. Il est présent parmi nous. Et il veut te bénir. Il veut te faire du bien. Il veut toucher ton cœur. Il est capable de faire ce que tu ne soupçonnes même pas. Tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ne dis pas, c'est pas possible pour moi, c'est impossible pour moi. Tout est possible à Dieu. Alors on va baisser nos fronts et on va prier le Seigneur. Je ne vous connais